Radio Kapi. Oh, Kapi.
Les titres de cette édition d'information, situation toujours tendue ce mardi dans le territoire des Masisi au nord Kivu et celui des Kalehe au sud Kivu voisin entre l'armée congolaise et ses alliés et le rebelle du M23. Des sources concordantes parlent de l'occupation de la cité de Bweremana dans les Masisi et celle de Minova à Kalehe par le rebelle. Plus de détails dans quelques instants. Hausse du prix des carburants depuis quelques jours dans la ville de Beni, au nord Kivu. Un litre est passé de 3500 à 4500, voire 5000 francs congolais dans certains points de vente. C'est la rareté de ces produits pétroliers sur les marchés locaux qui est à la base de cette situation qui affecte gravement la population. Plus de 66 000 enfants n'ont pas été vaccinés dans la province de la Tchopo l'année dernière. Nous en parlons dans ce journal avec Dr Stéphane Itakama, coordonnateur du programme élargi des vaccinations dans cette province. Il revient sur les stratégies qu'il faut mettre en place pour récupérer ces enfants. Bonjour à toutes et à tous. La situation reste tendue ce mardi dans la zone des combats opposant l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 dans le territoire des Masisi au nord Kivu et celui des Kalehe au sud Kivu voisin. Plusieurs sources parlent de l'occupation ce mardi de la cité de Bweremana dans les Masisi et celle de Minova à Kalehe. Pendant ce temps, des tirs d'artillerie sont entendus autour de la cité stratégique de Sake à l'ouest de Goma. Bernardin Nyangi.
Après de violents combats ayant perduré presque toute la journée d'hier lundi dans les montagnes autour des chefferies de Baoundé Nord Kivu et Boav au Sud Kivu, les rebelles du M23 sont entrés autour des 19h locales dans l'agglomération de Bweremana. Ce mardi, vers 6h du matin, ils sont parvenus à occuper le centre de Minova après un échange de tirs d'environ une heure contre l'armée congolaise et les alliés, indiquent des sources diverses dans la zone. Les dites sources parlent d'actes de représailles perpétrés par les rebelles dans leur opération de ratissage des deux agglomérations voisines. Quelques personnes, estimées à une dizaine, assimilées aux combattants Azalendo, ont été tuées ce matin à Bweremana, tout comme à Minova, disent ces sources. Par ailleurs, des détonations de tirs d'artillerie sont entendues depuis 4h locales entre le quartier Mugunga, ouest de Goma, et les collines surplombant la cité de Sake. Même si Sake reste toujours sous le contrôle de l'armée congolaise, la situation y est très volatile. Plusieurs écoles basées dans le quartier Mugunga ont dû renvoyer à 8h locales ce mardi tous les enfants à la maison pour mesure de précaution. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, la situation humanitaire s'est dégradée considérablement dans la région des Kalehe, Minova et Bweremana, à cheval entre le nord et le sud Kivu. Alors que Minova a servi de refuge à des centaines de ménages en provenance de Masisi, aujourd'hui tous les habitants de la région sont dispersés, fuyant les violents combats enregistrés là-bas depuis quelques jours. Plusieurs personnes ont été blessées par balles et des dégâts matériels occasionnés par le bombardement d'hier et de ce matin, rapportent nos sources. Sifa Maguru nous en parle en détail.
Nos sources dans la région indiquent que les habitants ont vidé les localités, notamment Luzirantaka, Kachovu, Nganjo, Lumbishi, et ont pris la direction des Iralo, notamment vers Nyabibwe. D'autres habitants ont trouvé refuge vers Butumba, Chondo, Buhanga, sur les presqu'îles de Bulenga, en groupement Buzi, précisément à cheval entre Nzulo et Kituku. La société civile locale ajoute qu'hier, un boat transportant la population et ses biens, fuyant les affrontements en Nova a été sauvé de justesse. Le boat qui le transportait a chaviré à cause de la surcharge. Ce mardi, d'autres habitants de Minova sont arrivés à Goma en passant par Kasunyu sur le lac Kivu. Le port de Kasunyu, qui est également occupé par les rebelles, affirme plusieurs sources. Toutes les activités sont paralysées, notamment les structures sanitaires à Kalungu et Minova qui fonctionnent en service minimum. Les blessés, eux, sont pris en charge par les CICR, affirment nos sources. Goma, Massif Amagour, Radio Kapi.
Du côté du Sud Kivu, la cité des Minova dans le territoire des Calais s'est réveillée ce mardi sous la présence de M23. La hiérarchie militaire FRDC indique que cette présence sera d'une courte durée. Certains habitants, y compris des déplacés venus récemment du territoire des Massissi au Nord Kivu, ont bougé vers la partie sud de Calais et centre. D'autres encore sont restés chez eux. Jean Kassami décrit la situation humanitaire de ces milliers de déplacés internes.
Plusieurs familles sont dispersées, les enfants séparés de leurs parents et les adultes de leurs proches. La vulnérabilité s'est accrue. Quand il est vrai que Minova était devenue une plaque tournante d'environ 20 000 personnes qui avaient fui la guerre des Massissi vers Kalehe, ces déplacés vivaient les uns dans des familles d'accueil, les autres dans des infrastructures publiques telles que les écoles et les églises. Bien que Minova soit une zone agricole par excellence, la production locale ne suffisait plus pour nourrir autant de bouches. La société civile de Calais ne cesse d'alerter sur la famine qui guette la population locale ainsi que les déplacés. Maintenant, plus que jamais, les besoins se font sentir avec plus d'acuité. Les collines qui surplombent la cité ne sont plus accessibles par les agriculteurs suite à l'insécurité. La ville de Bukavu dépend aussi en grande partie des potentialités agricoles de Minova. 70 km au nord, Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la psychose s'empare de la population de Kavumu dans le territoire de Kabare, à 25 km au nord de la ville de Bukavu depuis hier soir. Des tirs nourris ont retenti toute la nuit du lundi 20 janvier 2024. Le commandant adjoint de la 33e région militaire en charge des renseignements et des opérations confirme sans beaucoup de détails qu'il s'agissait des tirs orchestrés par un groupe de militaires FRDC avant de rejoindre les fronts sur l'axe Kalehe. Sources concordantes confirment que les crépitements des balles à forte intensité ont également été entendus à Calais et Centre. Dans l'ensemble, il y a eu 2 morts et 2 blessés selon le même source. La hiérarchie de la 33e région militaire confirme l'information mais sans préciser les nombres des morts. Il sera procédé le 30 janvier prochain à la vente publique de tous les biens de Corneille Nangaa répertoriés à Kinshasa. L'annonce est faite par le ministre d'État et ministre de la Justice Constant Mutamba. Cette décision entre en exécution des 2 arrêts de la Cour militaire et de la Haute Cour militaire ayant condamné l'année dernière l'ancien président de la CENI à la peine de mort pour terrorisme et crimes contre l'humanité. Les 2 arrêts de la justice militaire avaient recommandé la confiscation de ces biens et leur vente aux enchères. Une dizaine de ces biens immobiliers déjà confisqués seront alors vendus publiquement et les produits de cette vente servira à l'indemnisation des victimes de la guerre d'agression imposée par les Rwandais à la RDC, selon un communiqué du ministère de la Justice. Je le disais au sommaire, le prix de l'essence est en hausse depuis quelques jours dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Il est passé de 3500 à 4500, voire 5000 francs congolais les litres dans certains points de vente. La rareté de ces produits pétroliers sur les marchés locaux est à la base de cette situation qui affecte gravement la population. André Kitenge nous fait le point.
Chez les revendeurs de carburant communément appelés Kadhafi, le litre se négocie entre 4500 et 5000 francs congolais, alors qu'à la pompe, le prix officiel d'un litre est fixé à 3700 francs congolais. La rareté des produits pétroliers au poste frontalier de Kassindi-Loubiria est à la base de cette hausse, affirmaient les revendeurs, une situation qui affecte gravement la population. Ainsi, le prix d'une course en taxi-moto est monté en flèche, passant à 2000 francs congolais, voire 4000 francs congolais, contre 1000 francs congolais il y a quelques jours. Luc Machara, le président des pétroliers de la ville de Beni, précise qu'il n'y a pas pénurie de carburant dans la ville. Il justifie cette situation par l'hésitation de certains opérateurs économiques à se conformer à la nouvelle tarification douanière à partir de Kassindi-Loubiria, porte d'entrée de ce produit. Selon lui, la hausse des prix chez les revendeurs de carburant ne relève que de la pure spéculation. Un avis également partagé par l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane ACAD, qui invite les opérateurs économiques à libérer leurs camions des entrepôts et à se conformer à la nouvelle tarification douanière. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Au Sud Kivu, la rareté des produits pétroliers s'est fait également remarquer dans la ville de Bukavu. Depuis quelques jours, les prix du transport a haussé et la principale cause serait la rareté du carburant. Pour les pétroliers du Sud Kivu, il n'y a aucune hausse. Ces derniers ont maintenu les prix de la structure émanant du ministère national de l'économie. Rachel Kiesembangu pour plus de détails.
Chez les revendeurs appelés Kadhafi, les prix du carburant est passé de 3 500 francs à 5 000 francs avec comme conséquence la hausse des prix du transport. La population se plaint. C'est le cas de cette jeune fille.
J'ai remarqué vraiment que le prix du transport avait augmenté. Parce que le trajet de Ngouba jusqu'à la place de la paix, c'est une course de 1 000 francs. Mais moi, quand je suis partie là-bas hier, j'ai payé 1 500. On m'a dit que c'était à cause du carburant.
Cependant, les pétroliers disent maintenir le prix à 3 700 76 francs selon la structure en vigueur. Toutefois, le problème reste la rareté du carburant qui impacte le marché local. Urbain Kangé, porte-parole des pétroliers du Sud Kivu.
La situation à laquelle nous sommes confrontés, c'est la rareté de produits pétroliers sur le marché international. Les pays producteurs n'en produisent pas. Au niveau des pays d'approvisionnement, il n'y a pas de disponibilité de produits pétroliers. Ce qui impacte aussi au niveau local, qui est certaines stations où il n'y a pas de stock. Et là où il y a des stocks, il y a l'engouement déjà pour s'approvisionner.
Il affirme que c'est une situation qui est souvent observée vers les débuts de l'année, car les pays producteurs initient des nouvelles planifications et qu'il faille anticiper cela en disponibilisant des stocks stratégiques pour pallier les carences s'il y en a. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la ville de Paris en France accueille ce mardi la soirée dénommée « Investir en RDC ». Placée sous le patronage du président Félix Tshisekedi et portée par l'initiative de Tony Parker, légende de la NBA, cet événement a pour ambition de séduire les investisseurs et autres décideurs du monde en mettant en avant les opportunités économiques qu'offrent les pays. Des explications avec Blaise Ndongala.
Cette rencontre stratégique vise à dévoiler non seulement les opportunités économiques de la RDC, mais également à positionner les pays comme un acteur incontournable dans les concerts des nations. Ce forum s'inscrit également dans une démarche de rayonnement international visant à positionner les pays comme un acteur clé du développement durable et de l'innovation. Outre un cocktail dînatoire, cette soirée sera enrichie par un panel animé par des personnalités et autorités congolaises, dont les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Ils vont apporter des éclairages sur les perspectives économiques du pays en vue de favoriser des échanges avec des investisseurs présents. Riche en ressources et opportunités, la RDC se distingue par une population jeune et dynamique, des réserves hydrauliques et minières inégalées. Ces atouts considérables font du pays une destination de choix pour des investisseurs internationaux que l'ambassadeur Tony Parker mobilise activement grâce à son réseau. Cet événement qui réunit des décideurs congolais offre l'opportunité aux partenaires présents de se positionner comme des acteurs clés du développement économique de la RDC.
À Kananga, le quartier Kamaï, où est construit le complexe Athénée Royal en phase de réhabilitation sur fond de la Banque mondiale, est menacé par plusieurs têtes d'érosion. Certaines ont déjà englouti des habitations et continuent leur progression, dont celle des Kamaï Savinkas. Le gouverneur de province a été hier lundi sur place. Joseph Moïse Kamboulou s'est engagé à étouffer la progression de cette érosion sur fonds propres du gouvernement provincial. François Kadima nous en parle.
Plusieurs têtes d'érosion qui menacent le quartier Kamaï nécessitent une intervention. Déjà, certaines habitations ont été englouties dans différents coins. Le complexe Athénée Royal de Kananga, où abrite plus de 5 écoles pour 18 000 élèves, n'est pas épargné par la menace. L'ancienne résidence du prophète Moussoumbo sur l'avenue du Mangué n'existe plus et une autre tête d'érosion qui a déjà touché plusieurs maisons avance vers l'avenue Unako. Vers Kamaï Savinkas, une autre tête d'érosion qui progresse inquiète les habitants de la contrée. Lundi, le gouverneur de province, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, s'est rendu sur les lieux pour s'imprégner de la situation. Sur place, Joseph Moïse Kamboulou s'est engagé à limiter les dégâts de cette situation causée par les eaux de ruissellement provenant de la voie ferrée. L'autorité provinciale a instruit les experts en travaux publics et les services techniques à étudier les possibilités d'attaquer cette tête d'érosion et étouffer sa progression. La population du coin a salué ce passage du gouverneur, soulignant attendre ces solutions urgentes pour sauver leurs habitations. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Plusieurs routes des dessertes agricoles sont dans un état de délabrement très avancé dans la province du Congo. Le constat est fait par le président du Conseil provincial de paysans du Congo qui les déplore. D'après Symphorien Kwengo, cette situation ne facilite pas l'interliaison entre le 5 territoires et Kenge, chef-lieu de la province. Conséquence, difficile d'évacuer les produits agricoles de l'intérieur de la province vers les grands centres de consommation. Il pense que cette situation accentue la pauvreté des paisibles paysans et plaide pour la modernisation de routes afin de désenclaver ces coins du pays. Les points avec vous, Irène Mbomaluzolo.
Parmi les principales routes de dessertes agricoles qui sont complètement dégradées, le Conseil provincial des paysans du Kwango cite, entre autres, les routes allant de la mission Lozo à Tembo, de Popo Kabaka à Kasongolunda, de la ville de Kenge au village Mukoso. En raison des manques d'entretien, ces axes routiers sont parsemés de gros bourbiers, des érosions, des nids de poules et des flaques d'eau, compliquant ainsi la circulation. Symphorien Kwango est le président de cette structure citoyenne.
C'est un enclavement exacerbe la pauvreté de la population paysanne qui éprouve d'énormes difficultés pour évacuer sa production agricole. Le Conseil provincial des paysans congolais demande à son Excellence Monsieur le Président de la République et à Madame la Première Ministre de prioriser l'asphaltage des axes routiers de la province du Kwango, de la mission Lonzo à Tembo, Popokabaka et Kasongolunda, de Kenge à Mukoso, Mawanga Panzi, Kingo Wangala Kahemba, de Munzabala à Feshi en passant par Lobo.
D'après Symphorien Kwango, en dehors de la RN1 qui traverse Kenge et les 5 km qui vont de la barrière jusqu'à l'ancien aérodrome de cette ville, la province du Kwango n'a aucune route asphaltée. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président russe Vladimir Poutine a félicité lundi son homologue américain Donald Trump pour son entrée en fonction. Il a également salué son intention d'ouvrir un dialogue avec Moscou. S'exprimant lors d'un appel vidéo avec le membre du Conseil de sécurité de la Russie juste avant l'investiture de Donald Trump, M. Poutine a indiqué que Moscou était ouvert au dialogue avec l'administration Trump sur les conflits en Ukraine.
L'invité.
Plus de 66 000 enfants n'ont pas été vaccinés dans la province de la Tchopo l'année dernière. Plus de 100 autres n'ont pas achevé leur calendrier vaccinal. Comment peut-on expliquer cette situation et quelle stratégie utiliser pour récupérer ces enfants? Le docteur Stéphane Itakama, coordonnateur du programme élargi des vaccinations dans la province de la Tchopo, s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Docteur Stéphane Itakama, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous entendez par la vaccination des routines?
Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. La vaccination des routines en soi, c'est le fait d'administrer les vaccins aux enfants âgés de 0 à 11 mois et avec un calendrier vaccinal ou un programme bien précis. En fait, ça entre dans le cadre d'atteinte des objectifs de développement durable, dans le sens que c'est une vaccination qui est en train d'être réalisée par un programme du pays, qui est le programme élargi de vaccination, avec comme mission d'améliorer l'état de santé de la population à travers les enfants et les femmes enceintes.
Quels sont les vaccins que vous utilisez dans cette catégorie?
Par rapport à la vaccination de routine, nous utilisons le vaccin contre la tuberculose, c'est le BCG pour les enfants. Nous utilisons le pentavalent qu'on appelle communément le DTC HIP. Ça protège contre presque 5 maladies. La diphtérie, le tétanos, il y a même l'hépatite là-dedans. Il y a aussi le vaccin contre la diarrhée, qu'on appelle Rotacil. Il y a le vaccin qui lutte contre la fièvre jaune. Il y a le vaccin qui lutte contre la rougeole. Il y a le VPO qui lutte contre la poliomyélite. Il y a le vaccin VAT-TD. Ça, on administre aux femmes enceintes pour protéger contre probablement le tétanos. En dehors de ça, moins que je n'oublie, mais actuellement, nous avons introduit aussi le vaccin contre la COVID. Après la pandémie à COVID, où on utilisait cette vaccination en mode campagne. Maintenant, nous avons migré en mode routine et ça, on l'utilise aussi. Quand il y a épidémie, on recourt à des vaccins spécifiques.
Comment se présente la situation de la vaccination des routines dans la Tchopo?
La situation de la vaccination dans la province de la Tchopo évolue bon train, malgré les défis auxquels nous nous affrontons dans la mise en œuvre de ces activités en routine.
Docteur Stéphane Itama, quelles sont ces difficultés?
Premièrement, d'abord, c'est lié à l'accessibilité géographique interne dans nos différentes zones de santé, où il y a des zones de santé qui ont des aires de santé qui sont
soient riveraines. Il y a des aires de santé qui se retrouvent dans des endroits d'insécurité. Il y a même des aires de santé qui se retrouvent dans les milieux où il y a des activités plus minières que les activités normales. Et ce sont des aires de santé où la population n'est pas stable, elle est nomade. Mais en dehors de ça, nous disions que avec ces contextes sécuritaires d'accès difficile géographiquement et des contextes fluviaux, on fait à ce que la province, après les enquêtes menées par l'école de santé publique, on a révélé que notre province de la Tchopo regorgeait environ 66 000 enfants qui n'étaient pas encore en contact avec nos services de vaccination. C'est des enfants qu'on appelle enfants zéro dose. Et pour les enfants qui avaient commencé, mais qui n'avaient pas terminé leur calendrier vaccinal, on était à environ 101 000 enfants.
Avec ces enfants zéro dose, il doit y avoir des conséquences dans la communauté.
Avec cette situation, quand l'immunisation n'est pas encore collective, la conséquence c'est quoi? Nous nous sommes trouvés devant l'émergence de plusieurs maladies évitables par la vaccination. Pour cette année, la province a pu notifier presque 6 cas confirmés de polio dans nos différents territoires, y compris même dans la ville de Kisangani. Dans la province, il y a eu des épidémies de rougeole. Et quand il y a émergence de maladies évitables par la vaccination, c'est qu'il y a un problème d'atteindre les enfants pour les immuniser correctement.
Quelle stratégie utilisez-vous pour améliorer la situation vaccinale dans la Tchopo?
En dehors de nos stratégies traditionnelles que nous vaccinons en fixe, d'abord partout là où il y a des structures de soins, nous faisons aussi les avancées là où la population n'arrive pas à accéder facilement à nos structures. Et nous utilisons des stratégies mobiles. Mais en dehors de ces stratégies traditionnelles, actuellement, avec notre situation des enfants zéro dose sous-vaccinés, nous arrivons à utiliser des stratégies qu'on appelle porte-à-porte en routine. Nous utilisons des stratégies de vaccination des occasions manquées partout là où se passent des consultations.
Docteur Stéphane Itamar, merci.
Oui, c'est à nous de vous remercier, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de cette session des nouvelles de la mi-journée sur Radio Kapi, présentée par Patience Ngalulambombo et mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Martin Sebujangwe et Élisée Chikota Chivueta l'ont respectivement supervisée et coordonnée. Merci à vous tous de l'avoir écoutée.